France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Pierre Antaille, je suis né en 1964 à Paris et je suis musicien claveciniste.
Peut-être Pierre Antaille, que vous parliez d'un répertoire que vous avez d'ailleurs enregistré au tout début, qui est plutôt le répertoire de la musique anglaise. Là, c'est pas la répétition, c'est l'art de la variation, c'est tout autre chose. Quel est votre rapport à ces musiques-là, Bulle,
Farnaby, Bird. Oh, j'ai toujours adoré ce répertoire-là. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à travailler. J'ai retrouvé des photos de moi enfant sur la petite épinette, et c'est sur le pupitre, c'est le Fitzwilliam Virginal Book. Donc j'ai entendu les disques de Leonard d'ailleurs avec ce répertoire, et j'ai toujours voulu les jouer. C'est vrai que j'ai un certain nombre de collègues qui aiment ça aussi. Les jeunes, je vois aujourd'hui, aiment beaucoup ce répertoire, mais dans l'ensemble, c'est pas un répertoire qu'on entend beaucoup, et moi j'ai un peu du mal à vendre aux organisateurs de concerts, même de moins en moins. C'est une école fascinante, c'est toujours très intéressant, les mouvements esthétiques comme ça. Donc là, il y avait un moment tout à fait riche avec la reine Elisabeth Ier d'Angleterre qui aidait les artistes, qui elle-même adorait l'art, et ça a eu certainement une grande influence sur toute une génération de compositeurs qui ont composé un petit peu avec les mêmes règles. Alors c'est intéressant de voir aussi comment les Anglais, qui aiment bien les règles, la façon dont ils en sortent avec humour. Et alors ces variations, c'est intéressant surtout parce que, enfin c'est intéressant aussi parce que ce sont des variations le plus souvent, il y a des variations sur des thèmes religieux, mais il y a beaucoup de variations sur des chansons populaires, des choses que les paysans chantaient au champ, tout le monde connaissait dans des versions peut-être différentes, mais des chansonnettes presque, des petites histoires d'amour, et les compositeurs s'en emparent, en font une musique savante, plus ou moins savante, et non, le plus savant d'entre eux, c'est William Byrd, qui est notre Bach anglais. Lui, il écrit des musiques incroyablement variées et fortes du point de vue polyphonique, à partir de ses bluettes. Mais bon, ça révèle quelque chose quand même de la... Le fait qu'il y avait peut-être moins de distance entre la musique des champs et la musique du château. Enfin, qu'il y avait une familiarité, comme la danse populaire irrigue, la danse de salon. Il n'y avait pas la même frontière. Voilà, il y avait une conscience de ce qu'était la musique savante, qui était très forte, certainement, chez les gens du peuple, mais il y avait une familiarité.
Dans quelle mesure est-ce que aussi on choisit ou on est choisi par une musique ?
Alors je pense que c'est un petit peu ça. On choisit ce qu'on aime, évidemment, et après on est choisi par l'œuvre, particulièrement pour l'exécution au concert. Il y a beaucoup de musique que j'adore et que je ne joue pas au concert parce que ça ne se passe pas comme je voudrais ou parce qu'elle m'impressionne trop. Ça, c'est un peu le mauvais côté du métier.
Quand ça se passe pas comme vous voudriez, c'est parce que c'est des œuvres qu'on n'attend pas que vous jouiez, comme ce que vous disiez sur ce répertoire anglais qu'on demande peu, ou c'est parce que vous-même...
Ces œuvres que j'adore ne sortent pas bien au concert, parce que je n'arrive pas
à
m'en débrouiller. Oh, mais les choses les plus impressionnantes, l'art de la fugue, évidemment. Mais des fois, des choses très simples, parce que les choses simples sont difficiles à jouer. C'est pas évident, le concert. Le concert n'est pas évident parce que c'est un moment où vous devez quand même intéresser les gens. Et même si vous êtes très exigeant et que vous faites ça pour l'amour de l'art, il faut quand même que les gens passent un bon moment. Donc il ne faut pas les assommer. Il faut évidemment alterner des choses plus exigeantes et des choses plus faciles. Et organiser son programme, en tout cas, de façon à ce qu'il y ait une grande variété. Alors, ça me prend aujourd'hui l'essentiel de mon temps. C'est-à-dire, je travaille plus vraiment musique. Je travaille pas comme on travaille en répétant un passage. Enfin, je joue les choses, mais surtout, j'essaie de les jouer dans un contexte, c'est-à-dire avec autour d'autres œuvres.
Elles n'ont pas le même sens suivant qu'elles sont suivies ou précèdent.
Exactement. Et puis surtout, suivant la manière dont on les joue sur le moment. Voilà. Le caractère qu'on leur donne, etc. Combien de fois j'ai joué une pièce en bis, par exemple, les gens m'ont demandé ce que c'était, ils avaient beaucoup aimé ça, alors que je l'avais joué déjà avant dans le programme, mais ils n'avaient pas remarqué. Voilà. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, l'éclairage qu'on donne aux choses est vraiment crucial. C'est pour ça que le rôle, alors si l'interprète a un rôle, enfin, celui qui se produit en scène, une des choses, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui organise un commissaire d'exposition, c'est de faire une sorte de parcours qui soit parlant et passionnant. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal avec la planification des concerts. J'ai beaucoup de mal parce que je pense que c'est une sale habitude. Enfin, ce qu'on vit aujourd'hui, les programmes prévus un an à l'avance et tout ça, c'était la chose la plus antinaturelle qui soit et même dommageable pour l'art. C'était pas comme ça avant, c'était pas comme ça au 19e siècle, c'était pas comme ça quand les compositeurs jouaient leur propre musique et que souvent elle naissait au moment du concert ou que l'encre n'était pas encore sèche sur la partition et que personne ne connaissait l'œuvre encore. Et c'est pas comme ça dans tous les autres domaines musicaux à part cette foutue musique classique où tout est tellement planifié, organisé, réchauffé, surgelé. Si vous allez à un concert de jazz, un concert de chant populaire, de rock, de musique ethnique, ou je ne sais pas comment on les appelle, vous n'aurez jamais un bout de papier dans les mains qui vous explique ce que vous allez entendre et de quel manuscrit ça sort, et avec un numéro d'opus et une tonalité plus longue que le bras. Tout ça, c'est ce qui fait peur aux gens. Aujourd'hui, je pense qu'on dit qu'il faut aller vers un nouveau public parce qu'on perd le public et les jeunes et ça. Et alors, là, j'ai signé un contrat dans lequel on m'interdit de mettre une cravate. Alors, c'est ça qui va, soi-disant, va faire venir les gens. Mais c'est à mon avis ce qui les fait fuir, ces intitulés de programme, c'est toutes ces choses qui sont pas naturelles dans la façon de faire la musique. Il faut faire la musique comme on l'a fait à la maison.
Sa place là-dedans, on en est malheureux, Pierre Antaille.
Ah ben je souffre parce que j'essaie de résister aux organisateurs de concerts en essayant de les convaincre que le public se contrefiche de savoir si je vais jouer le Richard IV numéro 5 en ré mineur du manuscrit de 1649 à ce moment-là dans le programme, parce que tout le monde ne connaît pas la pièce, qu'il suffit que je dise que je vais jouer du Froberger, ça suffit. Alors évidemment, si on joue la Passion selon Saint Matthieu et les variations de Goldberg, c'est différent. Voilà, mais ce sont quand même des exceptions, je pense.
Est-ce que le plaisir de Louis ne serait pas en rapport aussi avec la taille de la salle? Est-ce que quand on a envie de parler au public, c'est aussi d'être comme dans son salon, de ne pas se retrouver dans une salle de 2000 places? C'est peut-être
oui,
plus c'est naturel.
C'est vraiment le problème. C'est vraiment le problème, effectivement. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, le contact est difficile à établir. Oui, oui.
quel est votre rapport aussi au lieu, on a entendu, qui souvent est pas adapté, mais à la lumière également. Je me disais que je sais que, par exemple, Grigory Sokolov, lui, il aime que la salle elle soit complètement noire et que lui soit seul dans... J'imagine que c'est peut-être aussi quelque chose d'important, la lumière pour le musicien, quand il est soliste, comme ça.
Moi, je demande ça toujours. Je demande ça... Je demande deux choses qui peuvent sonner pour certains prétentieux. Je demande qu'il y ait un podium, si on n'est pas en amphithéâtre, c'est-à-dire que je sois plus haut que le public. Et je demande une lumière centrée et l'obscurité dans le public. Alors déjà, ils ne peuvent pas lire un programme, ce qui est une bonne chose à mon sens. Mais évidemment, c'est pour focaliser l'attention. Parce que cet instrument, le clavecin, est tellement peu rhétorique, il y a tellement peu à donner, pas comme une chanteuse qui regarde et sourit, et regarde dans les yeux le public. On est là de côté avec un instrument qui a, encore une fois, peu de dynamique. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche l'auditeur. Et c'est le jeu de celui qui est là. Et pour avoir été moi-même dans des concerts de clavecin qui étaient complètement ratés, même avec Leonhardt, c'était souvent parce qu'il n'y avait pas cet élément-là visuel qui aidait à l'écoute. Il y a d'ailleurs, dans les carnets de Richter, un passage éminemment triste où il dit qu'il allait beaucoup au concert, il était très curieux, et il assiste à un concert de Leonhardt. Il écrit quelque chose comme, c'est évidemment un grand maître, mais on n'entendait rien, je sais pas quoi, on est parti à l'entracte. Voilà, une rencontre ratée à cause de mauvaises conditions. Certainement mauvais clavecin, et des conditions qui ne se prêtent pas. Donc il faut être très attentif à ces questions-là, surtout que un instrument fragile et peu spectaculaire, comme le clavecin.
Des souvenirs de concerts réussis, j'allais dire. Quels seraient les vôtres de vous, spectateurs, j'entends Pierre Antaille. Ouais. Vous parlez de Richter, est-ce que vous avez des souvenirs de Richter en concert, oui. De Leonhardt, évidemment, oui, aussi, oui, mais oui, voilà, oui. Des moments comme ça qui restent importants.
Oui, alors, comme ça, effectivement, Leonhardt, la première fois où je l'ai entendu, j'étais captivé par sa façon d'obliger à l'écoute, mais sans forcer le trait de Richter. J'ai des très grands souvenirs, notamment parce qu'une fois j'ai tourné les pages dans un concert avec que des pièces de Grieg, bon, c'était très intéressant de le voir travailler de près, mais surtout d'un concert auquel j'ai assisté où il voulait jouer le répertoire qu'il n'avait pas encore joué. Donc des œuvres peut-être mineures, il y avait le concerto de Poulenc pour deux pianos, il y avait le concerto de Gershwin et il y avait un concerto de Saint-Saëns, qui est assez décrié, et il a joué ça, alors encore une fois, il a joué le Saint-Saëns comme l'art de la fugue, comme un texte sacré. Toute musique qu'il choisissait à jouer, il la traitait comme la plus grande des musiques. Alors ça, c'était vraiment une très très grande leçon, parce qu'on sentait cette intériorité puissante, et ce profond respect au moment de jouer. Des grands souvenirs de Fischer-Dieskau, en particulier, à cause de sa façon d'habiter le texte, qui était inégalable. Et je pensais aussi à un concert qui m'a marqué, beaucoup de concerts de Saval m'ont marqué, mais un particulièrement où il jouait avec son groupe les fantaisies pour viol de Purcell, toutes les fantaisies, qui sont des chefs-d'œuvre absolus qu'on n'entend jamais. Le concert était prodigieux, et il était capté par la radio. Et je l'ai entendu après à la radio. Et le concert était moche. Et à partir de ça, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que ça signifiait. Enfin, le concert était-il réussi ou raté? Donc, bon, je me suis évidemment attaché au souvenir du concert tel que j'y ai assisté. Il m'a semblé que ça, c'était le plus important, l'émotion du moment du concert. Et ça faisait déjà un temps que j'ai cessé d'accepter les enregistrements de concerts, et ça m'a conforté dans cette idée, voilà.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Pierre Entaille.
Quel est votre rapport à l'enregistrement, Pierre Entaille? Parce que justement, l'enregistrement, pas forcément du coup de l'enregistrement de concert, l'enregistrement pensé pour le disque, il y a eu un moment où vous avez eu un passage où vous n'avez plus enregistré, puis vous y êtes revenu. Il y a des œuvres que vous avez enregistrées deux fois, quand on évoquait les Goldberg par exemple. Voilà, qu'est-ce que vous cherchez dans le disque? Et est-ce que la souffrance que vous éprouvez par rapport au concert, à l'organisation, à toutes ces contingences, est-ce que vous les avez aussi du côté de l'enregistrement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus apaisé, plus libre?
Alors, c'est surtout pour moi deux exercices complètement différents. C'est-à-dire, effectivement, jouer de manière vivante pour un public ou jouer pour un micro, c'est autre chose. C'est aussi pour ça que c'est un peu difficile de mettre un micro pour un concert, parce que on joue pour le fond de la salle et le micro est proche, et alors on ne sait plus pour qui on joue. Généralement, quand j'ai joué pour un micro et un public, j'ai choisi le micro instinctivement et je sens que j'ai pas fait passer ce que j'aurais dû faire passer au public. Et bien, l'enregistrement, moi, me plaît, m'intéresse, parce que c'est l'occasion d'enregistrer, de laisser une trace avec une œuvre, de la faire connaître et d'obtenir le meilleur possible à un moment donné. Voilà, c'est surtout ça. Au concert, encore une fois, c'est l'illusion. On peut avoir un instrument horrible, il peut y avoir toutes sortes de choses qui ne vont pas, mais on essaie de faire passer la beauté. À l'enregistrement, on choisit une très belle acoustique, un très bel instrument, on reprend autant qu'il faut, et on essaie d'approcher la perfection d'un moment, même si on sait que c'est pas possible, et que c'est qu'une semaine après, on aura d'autres idées sur l'œuvre, mais c'est un moment qui est comme ça. Voilà, pour moi, il est complètement différent du moment du concert.
Et le choix du clavecin pour l'enregistrement est quasiment encore plus crucial que pour un concert, ou pas?
C'est pour le concert, vous ne pouvez pas toujours choisir comme vous voulez. Des fois, vous devez jouer sur une vieille charrue. Et puis, l'acoustique met un rôle crucial. Le plus beau des clavecins peut sonner complètement plat dans une salle qui réagit pas, alors que l'enregistrement, évidemment, là, vous avez le choix, vous cherchez l'instrument qui va convenir le mieux, et des fois, je cherche beaucoup...
Il y a comme ça des pages qui vous résistent par l'instrument qui n'est pas trouvé.
Alors là, je viens d'enregistrer du Handel, et ça faisait plus de 10 ans que je travaillais là-dessus, et voilà, j'ai essayé beaucoup de clavecins, j'ai fait des essais, vraiment, avec des micros et tout, et je ne trouvais pas. Et puis j'ai trouvé un instrument qui me semblait idéal, et le propriétaire me l'a refusé. Alors j'ai dû me rabattre sur, disons, un second choix, mais qui me plaisait beaucoup aussi.
On a évoqué Jordi Savall tout à l'heure. Pierre Entaille, il y a quand même une aventure à laquelle vous participez, qui est Tous les matins du monde.
Oui, mais alors c'était une participation très limitée, parce que c'était un enregistrement de nuit, comme tout enregistrement, avec quelques œuvres, je sais pas du tout...
Il y avait votre frère Jérôme aussi.
Oui, il avait joué dans le disque, et on avait enregistré dans une église à Saint-Lambert-des-Bois, donc à un jet de pierre d'ici, où j'habite aujourd'hui. Et le seul souvenir que j'en ai, c'est que c'était le début de la première guerre du Golfe. On a juste fini l'enregistrement avec Jordi, comme très souvent, au petit matin, et il est parti, et je me suis retrouvé avec mon ami Philippe Humeau, facteur de clavecin, à remballer le clavecin dans un cimetière qui n'était pas éclairé, et en essayant de ne pas se casser la figure sur les tombes. Et là, on commençait à entendre les énormes bombardiers qui étaient basés en Angleterre, qui passaient au-dessus du cimetière. C'était une drôle d'atmosphère.
Vous aussi, vous aimez jouer la nuit, hein ?
Il y a un silence qui est différent. J'ai souvent travaillé la nuit, oui, souvent. On peut se concentrer plus, peut-être sur l'essentiel. Jordi, lui, il cherche quelque chose de particulier, il cherche l'état de fatigue, surtout avec ses collègues. Il veut fatiguer les musiciens afin qu'ils sortent quelque chose d'un peu exténué et sans prétention ou sans vouloir trop bien faire. Il a toute une théorie là-dessus qu'il ne dévoile pas facilement parce que les collègues seraient pas heureux. Mais ça s'est souvent fini comme ça avec lui. Il y a un musicien ou l'autre qui s'endort. Quand il m'arrivait de m'endormir parce que j'avais une ligne où je ne jouais pas.
Si on parle de vos frères aussi, Pierre Antaille, il y a quand même une autre grande fratrie musicienne qu'on n'a pas évoquée du tout, qui est la fratrie Kuyken. C'est vrai que quand on pense aux frères Kuyken et aux frères Antaille, on se dit quand même qu'il y a quelque chose, surtout quand on sait que vos frères ont travaillé avec les frères Kuyken à Bruxelles, que vous-même aussi, que évidemment, si Sigvald Kuyken et Gustav Leonhardt également travaillaient ensemble, c'était du coup peut-être une langue que vous parliez ensemble d'une façon assez naturel.
Et ils sont, enfin ces trois-là, en tout cas les Kuyken sont vraiment des princes de la musique. On les aime et effectivement on a eu la chance de collaborer avec eux. Des fois on a fait des concerts d'ailleurs comme ça avec les deux familles. Alors il y a des habitudes, des réflexes, mais c'est très difficile à décrire. Oui, il y a quelque chose, mais on peut aussi faire des rencontres dans la vie avec des musiciens avec qui, tout à coup, en jouant une fois, ça marche aussi bien qu'avec des gens avec qui on a joué toute la vie. Alors, c'est...
Par exemple, avec Amandine Beyer, vous diriez que c'est une affinité élective? C'est quelqu'un avec qui, quand vous avez joué, c'était évident?
Voilà. Amandine, c'était une rencontre effectivement très marquante. Il y avait certainement pas mal de différences dans les réflexes d'instrumentiste, mais qu'on règle assez facilement parce qu'elle m'a dit quelqu'un qui écoute merveilleusement. elle écoute, c'est finalement la première qualité d'un musicien, c'est celle-là. Écouter, s'écouter soi-même, écouter les autres. Et donc elle réagit merveilleusement. Et donc on a eu beaucoup, beaucoup d'expériences, je pense, très réussies, comme en chambriste, mais aussi parce que j'ai dirigé un petit orchestre dont elle était le premier violon. Et puis des gens, par exemple, comme Jean-Guyenne Queyras, avec qui j'ai joué une fois ou deux, et tout de suite, ça fonctionnait merveilleusement par cette écoute, justement, par cette capacité à vraiment réagir à ce qu'a fait l'autre, à lui répondre. Oui.
Complicité totale entre Amandine Beyer et Pierre Antaille, ici dans un extrait de la sonate BWV 1017 de Jean-Sébastien Bach.
Ainsi se referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Pierre Antaille, réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.